enregistré. Alors, je lance le truc. Donc voilà, bon, merci beaucoup d'être venu. Donc pour débuter, on aurait aimé en fait revenir sur l'idée initiale de la revue, qui était de rendre visibles les démarches de recherche peu balisées. Comment percevez-vous l'apport des carnets à ce titre? En fait, comment les carnets ont pu contribuer à rendre les objets peu visibles depuis leur création?
Est-ce que vous pensez que ça...
Est-ce que vous intervenez dans quel... Oui.
Je me
suis dit la revue, j'écoute. Hein, je suis en train de...
Et est-ce que vous pensez même, en fait, que des objets innovants ont été présentés? Parce que c'était un projet initial, mais... Est-ce que c'est un projet qui vous semble avoir été mis à terre?
Alors, moi, j'ai plein de choses à dire là-dessus, mais... je pense que la revue, elle a fait plus que... présenter les objets, je pense que c'est difficile de dire ça parce que quand on est dans un comité de rédaction, mais je le dis d'autant plus que moi j'ai proposé aucun numéro thématique innovant, mais je pense qu'elle a participé à construire en fait des approches en géographie qu'elle a été un des éléments, un des espaces où se sont construites ces géographies, on disait ce matin ouvertes aux sciences sociales. Je pense pas que c'était une simple vitrine. Enfin, c'était pas seulement un espace de visibilisation, quoi. Je pense qu'elle a vraiment joué un rôle dans l'envie de faire des choses en géographie ouvertes aux sciences sociales. Vous dites objet. Oui, c'est objet. C'est pas que objet non plus. C'est plus que ça. Hein, c'est démarche. Sur le plan méthodologique aussi, elle témoigne de l'ouverture de la géo aux sciences sociales et aux méthodologies qualitatives en géographie. Beaucoup, hein, quand même. Quand on fait un cours en méthodo qualitative, c'est vrai que moi j'ai utilisé plein de choses, hein, qui ont été publiées dans la revue. Voilà, pour moi c'est ça. Après, oui, des objets, les titres parlent d'eux-mêmes, je pense. Après, on adhère plus ou moins quoi aux objets en question, mais la géographie des enfants, c'était déjà bien structuré en fait dans mon anglophone, donc ça c'est plus un transfert d'une géographie existante ailleurs vers la France, les espaces d'entre-deux, moi j'ai toujours pas très bien compris, mais voilà, on va l'écrire comme ça. Mais...
c'est quoi ce numéro?
C'est peut-être un peu moins pour moi net ou clair ce qu'il y a derrière, mais voilà. C'est... Géographie du religieux, ça avait été beaucoup fait aussi en géographie culturelle, mais peut-être que là c'est unifié quoi. C'est plutôt un travail d'unification, donc c'est, pour moi c'est plein de choses en fait. C'est des transferts d'objets, c'est. Et les géographies animales, c'est une ouverture aussi pour le coup d'un nouvel objet en géographie qui accompagne le tournant vers la philo aussi, hein, vers les sciences humaines, pas seulement vers les sciences sociales. Donc,
dont on n'a pas parlé ce matin.
Donc ce matin, ça n'a pas du tout été évoqué. Moi, je ne voulais pas soulever la question.
On avait quand même beaucoup mis l'accent sur ça d'ailleurs, sur les sciences humaines plutôt. Il y a un tournant.
Et du coup, il y a plein de choses. Il y a peu de numéros finalement, mais en 10 numéros, je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Alors ça fait un peu, c'est l'inverse de ce que tu disais, Amandine. C'est pas l'autoflagellation, c'est un peu ouais, super, on a fait plein de trucs. Mais après, je pense que ça peut être dit d'une autre manière. Ça peut être dit, on a contribué à, de diverses manières, donner des espaces pour développer une géographie qui venait du monde anglophone mais qui n'était pas très développée en France. Structurer ou rendre visibles des objets géographie, fait religieux. C'est pas forcément tout neuf complètement, quoi, mais c'est...
Effectivement. Tu vois, même le numéro sur les animaux que je connais pour l'avoir dirigé, en fait, c'est pas un champ qui n'était... alors, en France, qui était en géographie vraiment effectivement, peu fréquenté, mais il y avait des choses qui existaient dans le monde anglophone. Donc, en fait, c'est... je pense que c'est la question de la nouveauté ou de l'innovation, elle sort jamais de nulle part, effectivement.
Bien sûr.
Et du coup, effectivement, il n'y a sans doute aucun objet qui est radicalement neuf. Et après, effectivement, il y a des transformations importantes qui peuvent avoir lieu dans des façons de voir des objets déjà travaillés. Ce que tu disais tout à l'heure à propos du numéro sur le religieux, sans doute.
Complètement neuf non plus, mais
c'est pas un objet neuf.
C'est pas un objet neuf, mais qui a été vu.
De voir et encourager à faire, enfin, à s'approprier en géo, en fait, des démarches et des champs théoriques qui n'étaient peut-être pas si évidents. Enfin,
oui, tu peux lire le religieux de plein de façons différentes. Hein. C'est effectivement ce qu'on a fait la géographie culturelle, c'était sans doute assez différent de ce que on a dans ce numéro-là, je pense.
Et puis c'était aussi du coup apporter à un lectorat, même si le lectorat on l'espère le plus divers possible, mais c'est quand même un lectorat initialement de géographes et du coup y compris de jeunes géographes et donc leur faire enfin c'est pas sans que ce soit sans que ce soit univoque puisque c'est un travail collectif, mais en tout cas d'apporter hein, dans cet espace de publication dirigé initialement vers la géographie, même s'il y a cette volonté d'ouverture, des objets qui sont pas immédiatement vus comme des objets géographiques, que ce soit l'animal, que ce soit justement, alors c'est pour reprendre le numéro 2 sur les espaces virtuels que je connais mieux, bien sûr, c'était effectivement voir comment comment cet espace est justement un espace, ce qui n'est pas évident a priori quand on
travaille sur
quand on travaille, enfin quand on n'a pas pris le temps de réfléchir à ce que c'est que cet objet d'interaction en ligne, tous ces objets là et enfin voilà, donc se dire que ces objets peuvent être regardés avec un regard spatial, géographique, en le faisant dialoguer avec bien sûr l'ambition de le faire dialoguer avec d'autres sciences sociales, ce qui est plus ou moins bien réussi.
Après c'est marrant parce qu'en fait c'est vrai que si tu penses par rapport aux géographies anglophones, c'est comme comment dire, eux ils pensent vraiment comme ça par studies, donc c'est les champs d'études, pour eux, c'est pas un problème, quoi. Et ça, c'est aussi, je pense, une des choses qu'il faut réfléchir dans la revue dans les années qui viennent, parce que ces numéros thématiques qui affichent des objets comme ça, ils contribuent à ouvrir, certes, et ça, c'est bien, mais ils contribuent aussi à trop structurer en champs d'études, je pense. Et, bon, alors c'est bien, parce que du coup, y a des gens qui se mettent à parler entre eux, et tu vois des trucs, tu dis « Ah oui, c'est intéressant, cette géographie-là, mais qu'est-ce que c'est que cette géographie des enfants, quoi ?» Bon, moi, ça me pose aussi question. L'objet, quoi. C'est là, c'était comme ça que vous l'avez abordé. Des objets nouveaux, ouais. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est des questions nouvelles, en fait.
Une démarche, plutôt, moi, je dirais.
Ouais, ou soit des démarches méthodologiques, soit des questions nouvelles. Et je suis pas sûre que l'objet, en lui-même, permette toujours...
Tout dépend de la question.
D'avancer, quoi. Sur le plan des questionnements que la discipline a envie d'adresser, quoi. Et ça enferme, je veux dire. L'objet, au bout d'un moment, il enferme. Et toutes les revues, je pense, qui fonctionnent avec des numéros thématiques, elles ont ce problème, hein. Au bout d'un moment, c'est...
On recrée un entre-soi.
Ouais, et puis les gens se hyper spécialisent sur des trucs. Bon, ce qui est bien hein, aussi, mais ça, c'est aussi enfermant, quoi. Au bout d'un moment, ce qui était neuf devient vieux aussi. Donc, la géographie des enfants, c'est presque déjà vieux, quoi. Ouais. C'est bizarre, quoi. Donc...
Et en même temps, si on veut renvoyer, par exemple, des étudiants qui veulent travailler sur ces questions, lire en français, parce qu'il y a beaucoup, mais bon, tous les étudiants ne lisent pas tout de suite l'anglais, et ben, il n'y a pas beaucoup de choses. Et le fait que ce soit rassemblé, pour le coup, dans un numéro spécial, ça, c'est hyper important.
Ça, c'est la vertu du numéro spécial.
Ça, vraiment.
Je pense que c'est une des vertus là, de la revue, pour le coup, qui n'est pas forcément la dimension recherche, et bien, elle est là, mais qui est sa mobilisation dans les pratiques d'enseignement. C'est-à-dire que, comme effectivement elle est en français avec des textes parfois plus courts du fait des terrains, c'est des choses qui vont en fait percoler beaucoup plus facilement que des articles d'autres revues dans les enseignements de licence, les pratiques d'enseignement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas de manière équivalente pour beaucoup d'autres revues. Il y a une fonction sociale de ce point de vue-là.
Elle est pédagogique, quoi, c'est ça, c'est un outil pédagogique.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est possible. C'est libre d'accès aussi, c'est gratuit, c'est facile.
Alors évidemment, c'est pas.
C'est convivial, c'est agréable.
C'est pas fondé sur c'est juste des choses que des collègues ont pu me dire, quoi. Après, évidemment, je ne sais pas si c'est partout.
Je pense que c'est vrai pour les carnets de terrain, c'est particulier.
Carnets de terrain, je pense que ça marche à fond.
Oui, je pense pour ça.
Les carnets de recherche, je pense que ça dépend.
C'est plus similaire à ce que tu vas retrouver dans les revues classiques.
Et les carnets de débat, pour le coup, pour avoir mené des entretiens avec certaines personnes qui. Enfin, personnalités, on va dire, qui quand même participent à baliser justement quelques objets ou quelques démarches, quelques champs. Des étudiants qui ne sont pas forcément tout de suite à l'aise avec l'écriture scientifique, bon, là, c'est facile, l'entretien, ça. T'es journalistique, je sais pas. On se dit, ils peuvent vite s'approprier, mais ce qui est très limité aussi, d'un autre côté, je pense. Mais peut-être, peut-être c'est vraiment, pas particulièrement vrai pour les carnets de terrain, à mon avis.
Oui, je suis d'accord, c'est carnet de terrain auquel je pensais.
Et du coup, peut-être qu'on peut rebondir direct justement sur cette dimension ouverte aux autres sciences, donc au départ plutôt humaine, aujourd'hui sociale. Donc finalement, est-ce qu'on peut dire que les carnets de géographes participent voilà, à construire une géographie pluridisciplinaire aujourd'hui et surtout, comment, par rapport à vos pratiques de recherche, là, d'un point de vue plus, toujours par rapport à ce que vous faites, et des institutions dans lesquelles vous, vous travaillez, vous menez vos travaux, est-ce que ça vous semble encore... Est-ce que ça vous semble possible, améliorable, à consolider, à développer, ou est-ce que vous voyez plutôt les freins aussi qui se présentent en fait à, à mon avis, c'est pas la difficulté, voilà, si je dis autrement, à construire le dialogue avec les autres sciences humaines ou sociales ne provient pas que du fonctionnement de la revue, mais aussi un contexte plus large. Et du coup, est-ce que vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une, depuis, par rapport à, si on fait un retour en arrière, entre 2009, 2010, 2018, est-ce que vous voyez un infléchissement plutôt vers l'ouverture ou plutôt vers le balisage, fermeture?
Il y aurait plusieurs manières de voir. Déjà, on pourrait faire, je ne sais pas si vous êtes amusé à faire le bilan de combien d'auteurs et d'évaluateurs non géographes ont participé à la revue. Ça pourrait être intéressant de voir ça. Ce serait une manière de voir, d'en faire le bilan de manière un peu quantitative, de se dire. Ouais. Mais sur. Moi, je me souviens d'un numéro mais je sais qu'il y a eu. J'ai eu l'impression, c'est un exemple que j'ai d'une sociologue qui a publié dans la revue, dont je me souviens qu'il y a une amie, et dont je me souviens qu'il y avait aussi un attrait de la géographie pour une partie des autres sciences sociales, ou dans ce tournant spatial qu'on a pu évoquer depuis 10, 15, 20 ans, que finalement il y a pas mal de chercheurs d'autres sciences sociales qui se disent aussi d'avoir. Une petite étiquette géographie dans ces publications, c'est pas mal du point de vue institutionnel de se dire j'ai aussi un peu la carte géographie qui peut m'aider si je veux postuler sur un poste de géo. C'est ce genre de choses, ça peut marcher parfois. Et alors après, ça veut pas dire que ça crée du dialogue forcément, mais ça repose la question effectivement institutionnelle de. On l'a évoqué ce matin, le fait que le carnet de géographe puisse être, publié dans le carnet de géographe puisse être un argument pour la qualification, ça, c'est intéressant. Est-ce que ça aide à l'ouverture à d'autres sciences sociales? Peut-être pas, justement.
Après, moi, j'ai pas l'impression que c'était le but non plus au début, en fait. J'ai l'impression que c'était vraiment, ça a été un projet qui est parti de une tentative de renouvellement de la discipline elle-même, en fait, que c'était très géographico-centré. Et qu'après, le renouvellement passait par l'ouverture aux autres sciences sociales et humaines. Mais que c'était quelque chose qui s'adressait aux géographes avant tout, pour leur dire, mais essayez d'aller voir autre chose.
Lisez de la philo, de la
lisez
philo,
autre chose pour reposer des questions dans votre discipline. Moi, je l'ai toujours vécu comme ça. Et de ce point de vue-là, oui, je pense que c'est pas forcément nécessaire, du coup, d'avoir plein de sociologues qui écrivent dans la revue, ou forcément des partenariats disciplinaires dans tous les articles. Pour moi, c'est un projet, c'est une revue de géographie, quoi, et qui essaye simplement de poser la question de qu'est-ce que c'est faire de la géographie aujourd'hui, quoi.
Mais est-ce que ça vous semble correspondre à des évolutions, du coup, de départements, de laboratoires de recherche, d'institutions qui travaillent avec des géographes, quoi? Est-ce que c'est une tendance plus générale, quoi?
Je pense que c'est un problème de géographe. C'est vraiment un problème de géographe. Les sociologues se posent pas cette question, par exemple, de savoir s'ils doivent parler aux autres. Ils s'en fichent, ils se parlent entre eux. Je pense que c'est un problème identitaire de la discipline géographique qui est, pour des raisons épistémologiques, quoi, de la manière dont elle a construit ses questionnements, c'est historiquement, de ce qu'est la géographie qui n'a jamais su ce qu'elle était, quoi.
Oui, je rejoindrais aussi quand même ce que disait Fabrice ce matin sur la question de champ, quoi, de champ de rapport de force dans le champ universitaire et le fait d'être dans une position dominée. Mais d'ailleurs, la géographie n'est pas la plus dominée. Si tu regardes les stats, les gens qui sont dans ces disciplines-là, les géographes se préoccupent jamais de les citer, par exemple. Tu vois, c'est-à-dire qu'on va se préoccuper de citer des sociologues, des historiens. Mais il y a des disciplines qu'on ne cite pas. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose de cet ordre-là.
Il y a des disciplines reines, sciences sociales, c'est l'histoire.
Donc après, je pense qu'effectivement, c'est plus qu'en termes de discipline, c'est plutôt en termes de questionnement, effectivement, que les choses se font. Et du coup, c'est un peu comme la question de l'objet, hein. Ce qui compte au final, c'est pas tant de discuter nécessairement avec des sociologues, mais de parler avec des gens qui ont des choses intéressantes à dire sur la question. Donc c'est plutôt effectivement une configuration qui est variable selon les programmes ou les objets sur lesquels on fait des recherches, quoi. Il y a des choses sur lesquelles ça va être des philosophes qui ont des choses intéressantes à dire, d'autres ça va être plutôt des sociologues.
Oui, mais ça renvoie quand même à la question de la crise identitaire éternelle de la géographie. Pour moi, c'est quand même ça qui est en filigrane. Ok, il y a des disciplines dominées, des disciplines dominantes, ça, bien entendu, il y a des effets de domination académique, mais la géographie, en plus de ça, et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles elle est dominée aussi, elle prête le flanc à la critique fortement, parce qu'elle a toujours, elle s'est construite sur cette espèce de quiproquo identitaire.
Carrefour.
Ouais, discipline carrefour, discipline rien du tout, quoi. Enfin, il y a une vraie question pour les géographes de qu'est-ce que c'est que la géographie. On accueille les étudiants à l'université en leur disant ce que vous avez fait au lycée, hein, c'est plus du tout ce qu'on va faire. Hein. À peu près quand même on leur dit ça. Nous non, on va faire la géographie très sérieuse. Et c'est quoi la géographie très sérieuse, enfin, c'est quoi la géographie académique? Donc je pense qu'en fait la revue Carnet de géographe, elle s'inscrit dans cette histoire de doute et de besoin de refondation sans cesse. La géographie, c'est une science qui s'est sans cesse posé cette question de qu'est-ce qu'elle faisait. Les historiens se sont éternellement posé la question de comment ils faisaient l'histoire ou pourquoi ils faisaient l'histoire. Mais nous, on a quand même une incertitude profonde, quoi, sur qu'est-ce que c'est la géographie. Et je pense que c'est une manifestation de cette question-là, en fait, les carrières de géographes, à un moment historique particulier de l'histoire de la discipline.
Et en même temps, ça a du sens de perpétuer ce questionnement.
Bien sûr, oui, de toute façon, il est là, il est
indépassable.
Il est quand même fécond.
Exactement, c'est-à-dire que c'est un questionnement qui est fondamental par la démarche scientifique.
Et après, ben, par exemple, il n'y a pas beaucoup de géographie environnementale, si je me rappelle.
Non, oui, non, ça c'est sûr.
Voilà, on peut questionner les creux aussi, on peut regarder les nouveaux objets, mais on peut aussi questionner toutes les géographies qui ne sont pas. Alors, soit que nous, on est manqué d'intérêt pour ces champs-là, soit que les gens qui les pratiquent aient manqué de. Ne se soient pas sentis interpellés par cette revue, quoi, et se soient dit, ben, non, ça c'est pas ce que je fais moi. On peut aussi réfléchir à ça, quoi. Carnet géographe, c'est ouvert comme titre, et puis finalement, ça produit quand même une géographie très sociale, ou culturelle, politique. Bien sûr, c'est les gens qui l'ont faite, mais...
Il y a quelques articles qui sont écrits par des environnementalistes, mais qui s'intéressent du coup aux dimensions politiques, en fait, aux sociales. Ouais, c'est vrai que sinon, ça ne fonctionne pas. Parce que, aussi, je crois que les collègues spécialisés sur ces questions se sentent plus encore contraints de publier dans certaines revues qui leur donnent une reconnaissance. Pour le coup, je pense qu'il fait un peu de concurrence de support, de publication. Enfin, dans le sens que c'est pas prioritaire, quoi. Parce que je serais pas. Enfin, voilà. Aujourd'hui, peut-être ça changera.
Et en même temps, on pourrait se dire que le carnet de terrain.
Serait
un espace de publication, justement, de réflexivité pour des choses qui n'auraient justement pas lieu dans ces revues très spécialisées, environnementalistes, etc. On pourrait s'imaginer qu'effectivement, le carnet de terrain accueille un espace de réflexion sur les pratiques de recherche sur ces sujets-là. Et finalement,
ils ne font pas, en fait. Ils proposent rien, en fait.
Je pense qu'il y avait quand même faussé, mais on ne va pas dire comme ça, la séparation des méthodes qualitatives et quantitatives.
Oui, mais ça, c'est très fort, c'est derrière. Hein. Ouais. Dans les carnets de terrain, c'est quasiment que des méthodologies d'enquête qualitative inspirées.
Comme si tu faisais du quanti, tu réfléchissais pas sur ce que tu sais. Alors que si.
Bien sûr que si. Mais c'est le mot terrain aussi qui est piégé.
Mais c'est pas beaucoup. Il y en a sur le.
C'est le mot terrain qui est piégé aussi, parce que si c'était méthode, parce que là, ils iraient, j'ai rien à dire sur les outils et la méthode. Ah, le terrain, non, c'est le truc, c'est l'ethnographe, quoi, c'est l'ethnométhodologie,
voilà, c'est ça.
C'est l'enquête de terrain sociologique, c'est pas moi. Quoi. Donc le terrain, c'est piégeant.
C'est la théorie ancrée.
Vous rebaptisez carnet de terrain et de méthode.
Non, mais je pense que le fait que c'est ce mot-là qui a été choisi, c'était aussi
et en même temps, c'était aussi lié au fait que dans certaines revues, je pense que ce ne sera pas retranscrit, mais à Cybergéo, où certains doctorants, qui avaient essayé de publier quand on était doctorant à Nanterre dans Cybergéo, et du fait des méthodes qualitatives, ça ne passait pas.
Ça passait pas.
C'était pas robuste, la méthodologie n'existe pas. Enfin, vous renvoyez votre article quand vous aurez consolidé votre approche méthodo, quoi.
Ouais. Ça, c'est autre chose.
Donc là, et je pense que ça a changé quand même.
Et ouais. Ça a changé.
Ça a changé. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une.
Quoique, l'espace géographique est en train de se refermer là-dessus aussi. Ouais. À un moment donné, ça dépend qui dirige.
Ouais, ouais. Enfin, bon. En tout cas, je pense qu'il y avait quand même. Voilà, c'est vrai qu'on l'a pas écrit comme ça, mais cette volonté de rendre possible, du coup, d'avoir des démarches qui ne sont pas. Enfin,
mais parce que sinon, tu vois, vous étiez toutes les trois sur le sud, en fait. Et en fait, ce que tu étais censé publier à ce moment-là en matière d'enquête de terrain sur les suds, c'était des travaux de géographie du développement, et tu le mettais dans des revues comme Autre part, Revue Tiers-Monde. Enfin, t'allais vers des revues, enfin moi dans ma génération c'était ça, ouais, quoi, t'étais géographie des Suds, quoi, et c'était très enfermant en fait.
Et on voulait ne pas s'enfermer dans ces cadres là et d'ailleurs on était issus d'une formation Sud-Nord, enfin de géographie urbaine, enfin, notre master n'était pas divisé, c'était par objet, c'était sur les enfin, par objet, par non mais par soit géographie urbaine soit géographie rurale, ce qui était un autre problème, mais en tout cas donc c'était cassé cette et je pense qu'on du coup on voilà, on réfléchissait à ne enfin ce qui était c'était difficile en fait d'aller vers la revue Tiers-Monde, la revue Autre part, c'était pas vraiment les études du développement, c'était pas trop ça notre je pense que c'est très lié à Nanterre là quand même,
alors que moi j'étais formée, alors j'étais pas en thèse à Nanterre, mais enfin c'est le labo où je suis allée travailler tout de suite après la thèse, et puis bon en fait j'étais encadrée par Alain Dubresson donc Sylvie Jalin, voilà. Pour nous ça c'était naturel d'être étiqueté sud, on disait pas sud d'ailleurs à l'époque, hein, c'était pays en développement. Et puis j'étais à GECO et voilà, on publiait dans Revue Tiers-Monde, on publiait dans Autre part, on publiait dans les revues concernant les aires régionales qui nous concernaient, moi j'écrivais dans les revues sud-africaines à l'époque un peu, voilà, et on se posait pas la question de savoir si nos méthodologies d'enquête qualitatives, qu'on ne qualifiait pas dans nos méthodologies d'enquête qualitatives, étaient recevables ou pas en géographie,
ouais, parce que c'était pas
parce que dans la sous-catégorie sud, de toute façon c'est ce que tu faisais les trois quarts du temps, parce que t'avais pas de données statistiques sur beaucoup de terrain, donc pas partout, ça dépendait des terrains. Il y en avait qui faisaient du quanti, mais...
C'était beaucoup plus rare, c'était plus rare, certaines questions. Et après, c'était pas très robuste, la méthodologie qualitative. Je pense qu'elle s'est consolidée.
Alors après, oui, on faisait mal.
En tout cas, en géo.
Oui, ça c'est sûr qu'il y a quand même eu tout un temps où il n'y avait pas vraiment de méthodologie. C'est-à-dire que c'était un peu...
Tu vas voir.
Tu vas voir comme ça se passe. Voilà. Ouais. C'est sûr que ça paraît... Enfin, l'absence, jusqu'à très peu de temps, de formation en, fait, en méthodologie quantitative, qualitative, comme si c'était quelque chose qu'on sentait, inné.
Je pense que ça se faisait différemment, en fait. C'était pas institutionnalisé, il n'y avait pas d'enseignement. Mais par exemple, pour le Sud, du moins, comme on était encadré par des gens qui avaient tous été formés en lien avec leur STOM, ils étaient tous en lien avec des anthropologues. Et en fait, ils nous transmettaient les savoir-faire, les pratiques de terrain à travers les collaborations qu'ils avaient eues via leur STOM. C'est comme ça que ça se faisait. Ou des agronomes. Moi, j'avais travaillé avec un agronome au début. Il m'a dit, allez, viens, je vais te montrer ce que c'est les enquêtes de terrain. J'avais jamais eu un cours.
Et du coup, c'était très individualisé.
C'était la fac. La fac était comme
petit,
ça.
Quoi.
Oui.
L'université a changé. C'était comme ça. C'était... Je sais pas si c'était bien ou mal, hein, mais en tout cas, c'est sûr que la revue, elle est arrivée à ce moment de monter des approches qualitatives, de tournant social de la géo, et puis de consolidation des méthodologies qualitatives. Et après, c'est une question aussi pour l'avenir. Parce que vous avez mis dans votre projet ouverture justement quantitatif. Et est-ce que c'est possible? Comment tout ça? Ça, c'est un vrai...
C'est intéressant.
Ce qui est la vraie...
vraie question. Hein.
Ce qui est la vraie... Enfin, ce qui est un vrai enjeu, moi, oui, c'est réussir à articuler des méthodologies quali et quanti.
Ah, mais ça, c'est sûr.
Comme font, en fait, un certain nombre de sociologues qui font des travaux très, très solides, quoi. Ouais. Parce que ça donne des résultats qui sont très, très probants, quoi. Et ça, effectivement, c'est encore assez rare en géo. Le vrai croisement, il y en a, Mais il y a quand même cette... Souvent, c'est quand même deux champs.
Parce que c'est des... Ouais, faut savoir faire aussi, quoi.
Oui, il faut savoir faire, bien sûr. Et puis, il y a quand même cette idée, effectivement, que ça renvoie à des façons de penser à la discipline, même des sous-champs qui ne sont pas les mêmes.
Pas les mêmes questions de recherche non plus.
C'est ça.
Ça recoupe les questions épistémiques, quoi. La séparation du quali, du
coup. Mais il y a des
études. Témoigne de ça, la revue, après. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça, je pense aussi qu'elle est... Vraiment, je redis ça, quoi, que je pense qu'elle est perçue par certains géographes comme une revue ne relevant pas de leur géographie à eux. Bon, bien ou moins mal, hein, mais c'est comme ça.
On peut dire ça de toute revue, je pense. Enfin, tout le monde n'y pas les mêmes choses. Donc,
Bah, plus ou moins, quand même. Hein. Il y a des revues qui ont des projets éditoriaux tellement élastiques. Les annales de Géo, tu vois, à la limite...
Oui,
plus bien. N'importe quel journal de géo, certains vont dire c'est un projet beaucoup plus, beaucoup trop classique, ça ne correspond pas, c'est une géographie vieillissante.
Mais c'est faux, c'est... ça, par rapport aux dernières publications. Et ouais, puis, pour le coup, alors là, Quanticali, ils vont publier de tout, quoi. Ouais. Tous les terrains.
Mais après, ils vont... géophysique, assez...
poussé.
Ouais, il y a un peu de tout.
Oui, mais du coup, il n'y a pas une personnalité très forte, pas une ligne édito, voilà.
C'est ça. C'est ça, c'est la géographie, quoi. Ouais. Ou Géocarrefour, ou des revues comme ça. Mm-hmm.
C'est vrai.
La diversité est variable, quoi. Mm-hmm.
Puis c'est vrai qu'il y a eu des renouvellements dans ces revues.
Mais en même temps, c'est ouais, c'est ça, années. Ça dépend des gens.
Ça dépend à quelle époque tu parles. Des gens, tu vois, qui viennent de...
Ça dépend de qui, oui. Ouais.
Ça me fait penser qu'on aurait pu leur demander comment ils ont... fait leur changement de direction.
Oui, bah oui, c'est vrai. C'est...
Le Vanal, ils l'ont fait.
Ils l'ont fait, oui, ouais, il y a pas si longtemps que ça, quelques années. Ouais.
Trop tard. Peut-être juste, il y avait quand même deux autres points qu'on voulait aborder. Enfin, moi, qu'il y a des choses comme ça, spontanément. C'est par rapport à, cette fois-ci, non plus sur le fond, mais sur la forme, sur la manière d'écrire. Du coup, est-ce qu'on peut revenir voilà, sur le fait que cette annonce-là d'écrire, promouvoir une certaine liberté d'écriture, bon, ok, mais en fait, on a des cadres qui nous enferment, en fait. On est dépendant de certains standards. Et est-ce que, voilà, est-ce que vous pensez que c'est encore possible, souhaitable, je ne sais pas, ça a du sens de promouvoir en 2018 enfin, après cette expérience, après ces 10 premiers numéros, ça, est-ce que vous avez pu voir passer, bon, c'est pas du tout une vision d'ensemble, c'est pas là l'idée, hein, c'est juste par rapport... Oui, non, mais c'est pas le but, c'est pas ça, c'est juste du coup, voilà, est-ce que... Il vous semble en fait légitime ou enfin, en tout cas intéressant de continuer à promouvoir ça ou faut mieux arrêter quoi. C'est pas possible.
Moi je trouve ça intéressant de laisser la place à ça, de le laisser ouvert. Mais après, ça n'a jamais été une injonction à, justement à l'innovation dans la manière d'écrire. Et heureusement parce qu'effectivement, sinon on serait tous un peu embêtés parce qu'on est effectivement très formatés par. Ces normes de publication académique. Après, ça a peu produit de choses originales, quelques-unes quand même. Alors parfois, on pouvait se poser la question de, est-ce que l'innovation, la manière de. Enfin, la forme prenait pas le pas sur le fond dans les propositions qui ont été faites. Et du coup, est-ce que ça, finalement, ça arrivait pour certaines publications, est-ce que ça a sa place dans la revue, est-ce que ça apporte une réflexion géographique des formes qui étaient très, très originales dans leur manière de...
Si tu penses à quoi, là
par exemple, c'est un carnet de lecture. Non, je sais plus dans quoi il a été publié. C'était forcément... Enfin, c'était hors...
Sur
Anthony Merle. Sur Pérec, disparition.
Et Lippo,
Donc, on a fait le choix de le publier et je crois que je sais plus... moi c'est vrai que j'étais relectrice sur ce truc-là, je m'étais posé la question de pourquoi. Bon, c'est un article qui est fait sans eux, quoi,
je l'ai relu aussi, j'étais aussi la seconde sollicitée.
Ouais, c'est ça. Et du coup, je sais pas quel souvenir t'en as. Moi je m'étais dit, bon, pourquoi pas, mais qu'est-ce que ça apporte.
Après, c'était deux trucs, quoi, tu vois. Déjà, est-ce que t'adhères à Loulipo en soi, déjà, ce projet, mais qui avait un sens, je pense, historiquement aussi, voilà. Et après, il y avait la question de, et en géographie, et pour une revue de géo, et les deux étaient, enfin, c'est deux questions différentes, en fait. Ouais. Et moi, je trouve ça rigolo. Je comprends le truc rigolo, décalage, machin. Ouais. Après, c'est dans le cadre d'une revue scientifique, si on pense que les carnets de géo sont une revue scientifique, qu'est-ce que ça apporte au propos? Est-ce que, par exemple, ça va faire lire des gens qui n'ont jamais lu? J'ai des doutes. Est-ce que ça va juste distraire des collègues quand on a marre de lire des articles scientifiques un peu austères et que dans ce cas-là, ça a une fonction, après tout, récréative et pourquoi pas Non, mais c'est vrai, parce qu'on ça peut aussi être ça.
Quoi, parfois.
Est-ce que tout d'un coup, tu vas changer de point de vue sur... J'ai même plus de quoi parler le texte, en fait.
Mais tu vois, c'était sur les lieux, les différents lieux de ce roman, de la disparition.
De la disparition,
La disparition, puisque c'était justement sur le
point de vue. C'est ça.
Les différents lieux.
Les cartes lieux, il y a cherché dans Paris, les lieux voilà. Dans lesquels...
Là, tu vois, pour moi, la forme a primé le fond. J'ai retenu l'exercice de style et j'ai totalement évacué
la forme. Mais en fait,
c'était juste Loulipo, en fait.
Mais c'était juste, du coup, une cartographie. Bah, sauf que Loulipo, ils avaient quand même un... Enfin, derrière ça, tu vois, derrière l'écriture de...
Un projet.
Et puis, ouais, c'est ça. dans la disparition, t'as quand même le E qui disparaît, qui représente plein de choses. Enfin, il y a un propos derrière cette disparition du E. Mmh. Et là, bon, non, là, c'est une cartographie des lieux du roman. Bon, pourquoi, enfin, pourquoi pas. Voilà, je pense que la dimension récréative, pourquoi pas. Je suis d'accord avec toi. C'est
après écriture libre. Là, on est quand même un peu extrême, mais le fait d'avoir une écriture qui est soignée, c'est-à-dire que c'est pas forcément une expérimentation, tu vois, où tu enlèves le peu, où tu vas faire des choses qui sont un peu des exercices de style, quoi. Mais au fond, c'est quelque chose qui est pratiqué dans plein de disciplines, en anthropologie, même en sciences sociales, en sociologie. Souvent, les grandes monographies, elles sont aussi extrêmement bien écrites, quoi. Et je pense que ça fait partie, en fait, de leur puissance scientifique.
Oui.
C'est que c'est des textes qui... parce qu'en fait, ils ont des qualités littéraires, mais qui sont là, pour le coup, vraiment au service de ce qu'il y a à dire. C'est-à-dire qu'ils décrivent exactement, précisément, ils te font comprendre ce qu'il y a à comprendre, quoi. C'est-à-dire que c'est pas juste l'effet pour l'effet, mais c'est au fond un outil scientifique qui va à la fois évidemment te faire avoir du plaisir à lire un texte, mais aussi te permettre de réellement comprendre ce qu'il y a à comprendre. C'est-à-dire que ça, à mon avis, oui, là c'est quelque chose qui est évidemment à valoriser, mais qui est, tu vois, écriture libre, c'est au fond une écriture qui est très très travaillée, quoi. C'est une écriture qui est... qui demande des qualités qui ne sont pas celles qu'on apprend nécessairement dans l'écriture scientifique, mais qui, à mon avis, participent d'une vraie écriture scientifique dans certains types de compte-rendus de terrain, de monographies, des choses comme ça.
Qui posent des tas de problèmes, je trouve, en politique, sur la question du capital culturel.
Ah, bien sûr.
Ça m'a toujours posé beaucoup de problèmes, mais c'est encore un autre sujet. Ben non, après, sur cette question-là, moi, on en parle à midi, hein, au final, il n'y a pas tant de gens que ça qui ont pris, pas tant d'auteurs que ça qui ont pris des libertés avec le format académique.
C'est surtout ça, c'est l'écriture d'articles.
Voilà, l'essentiel de la revue, ça correspond quand même à des articles classiques, on va dire. Après, on peut essayer d'interpréter ça, pourquoi cette liberté n'a pas été investie. Faudrait peut-être en parler aux gens, en fait, aux auteurs, moi j'en sais rien. Est-ce que c'est bien que ça n'ait pas été fait massivement? Est-ce que c'est pas bien Je sais pas. Moi, mon point de vue, c'est qu'on n'est pas des... Enfin, tout le monde n'a pas des qualités, en effet, littéraires. Tout le monde n'est pas... En fait, je pense que... C'est peut-être un point de vue réactionnaire, ce que je vais dire, mais... Je pense qu'il ne faut pas non plus mélanger les genres, quoi. D'une certaine manière, et que si quelqu'un, en effet, a envie et se sent capable de se livrer à ce type d'exercice, je trouve que c'est très bien que la revue le donne, cette possibilité. Mais je suis pas sûre qu'elle soit la seule à le faire dans ce cas-là, pour des textes un peu exceptionnellement différents. Après, ériger ça en principe d'écriture libre qui serait au cœur d'un projet éditorial, et ériger ça presque de manière systématique en un gage de renouvellement de la discipline ou renouvellement de la science, moi ça j'y crois pas trop. Et je me dis que finalement, si les gens s'en tiennent au code de communication classique, c'est parce que finalement c'est ce qu'ils cherchent dans la revue aussi, quoi. On cherche un article scientifique, on cherche de l'information, on cherche assez rapidement à faire le point sur un sujet, à le documenter, avoir un point de vue, une démarche, un exemple, comme tu dis, maniable pédagogiquement, qui va toi t'ouvrir des perspectives intellectuelles. Et que finalement, ça, pour le faire vite aussi, on a besoin de codes de communication, en fait. Pour moi, c'est pas qu'un carcan, en fait. Ce qu'on dit, les cadres, les standards, oui, en effet, c'est normatif, c'est enfermant. C'est un carcan, oui, mais c'est un gage de scientificité aussi.
Et puis ça t'aide à écrire.
De rigueur.
T'as déjà des modèles par rapport auxquels tu peux te...
Oui, et puis surtout, t'as besoin d'exposer ta méthodo, t'as besoin de réfléchir à ta posture de recherche, t'as besoin de faire l'état de l'art. Sinon, pour moi, tu fais plus de la science, quoi. Si tu changes complètement... Et ça veut pas dire que t'as pas le droit de faire différemment les choses, mais peut-être pas dans une revue, quoi. Peut-être dans des espaces plus libres, de blogs ou des livres. Ou là, peut-être qu'on manque de liberté, en effet. Mais pour moi, une revue scientifique, je pense que je suis assez conservatrice, mais c'est un point de vue personnel. Hein. Pour moi, c'est facile, quoi. Je me dis, j'ouvre l'article, je sais, j'ai le résumé, je vais avoir l'intro, je sais où je vais, quoi.
Et ça te pose la question de à qui tu t'adresses, en fait. Si le lecteur...
C'est un mode de communication.
C'est amusant pour toi. Peut-être que ça peut être intéressant, la démarche, de chercher à se départir de certains cadres quand même qui nous guident et qui peut-être nous
enfin, aplatissent un peu la pensée parfois, parce qu'il y a même cette idée aussi que
t'as. C'est ça, en fait, pour moi,
et
c'est ça.
Par contre, celui qui, qui reçoit, eh ben, c'est pas l'idée que de. Oui. Donc finalement, c'est, je pense que, le, encore une fois, la démarche est intéressante, mais le produit, pas du tout.
Le enfin, produit final, c'est rigolo c'est, pour celui qui l'a fait, mais pas, je suis pas sûre
si
que pour le lecteur.
Si on cherche à être lu, ce qui est quand même le but d'une revue, c'est de réfléchir à la réception et à ses lecteurs, et eh ben là, en fait, il faut un code. Enfin, sinon, ouais. Ça marche pas.
Après, il y a eu. Bah, c'était quand même un autre code, mais une autre forme de code, mais il y a eu quand même quelques carnets de terrain qui sont des. Qui sont des, bah, des des vraiment des carnets de terrain quoi, des
Marie
voilà.
Oui mais ça c'est pas du tout enfin genre en anthropologie ça se fait depuis des
décennies, oui mais en géo encore une fois c'est pas quelque chose qui était donné enfin qui était donné accepté voir, même ça... quelque part enfin je veux dire ça fait pas partie de la démarche scientifique enfin c'est c'était ton carnet enfin bah même Florence voyez vous avez dit aussi voilà moi ça enfin je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir parce que cette idée un peu c'est pas que la réflexivité là, c'est aussi la cuisine
la matière
quoi.
La cuisine n'était pas exposée
non mais ça c'est bon voilà dire que ça une, ça du enfin oui ça a une légitimité
après oui c'est la question de est-ce que c'est la légitime de l'exposer
et ben moi je pense
ça c'est une vraie question
c'est pas le même statut mais enfin bon voilà ça c'est en tout cas après on n'est pas forcément d'accord mais c'est comment dire une question qui a été posée à travers cette ouverture à un autre type d'écriture et un carnet de terrain, une nouvelle méthode.
Et puis ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui a une vertu pédagogique, parce que c'est des choses sur lesquelles c'est des formes d'écriture qu'on relègue souvent dans des annexes de thèse ou ce genre de choses. Bah, les données à voir dans une revue gratuite en ligne accessible facilement, c'est aussi montrer à la fois pour les étudiants mais aussi je pense entre collègues c'est dire bah voilà comment telle personne a procédé pour faire son terrain
oui c'est un peu l'équivalent du carnet d'expérience en sciences expérimentales oui. Mais après on peut aussi discuter d'autres choses tu vois parce que les gens qui acceptent de faire ça parce que c'est un peu ça maintenant on accepte d'exposer un peu son bricolage alors du coup on revalorise la notion de bricolage c'est l'artisanat c'est toutes les métaphores de l'artisan bon. Les gens acceptent de s'exposer et en même temps, moi j'ai l'impression que le format du carnet de terrain pousse à une mise en scène de soi aussi. Pas toujours. Et ça, je pense que c'est un problème en socio, en anthropo aussi. Hein. Je sais pas si ça peut être honnête une exposition de soi, mais. Enfin, ça crée un effet de mise en scène, voilà. C'est ça que je veux dire. Dont on peut discuter aussi en fait. Et est-ce que c'est est-ce qu'il faut formaliser par l'écrit ce genre de choses ou est-ce que par exemple ça doit rester dans des séminaires méthodologiques où on va à l'oral discuter de manière ouverte entre soi avec des textes qui vont pas être publiés qu'on pourrait écrire se faire circuler et puis dire ouais toi t'as fait comment non voilà j'ai vraiment ça n'a pas du tout marché ou et là on l'écrit en fait on le formalise et du coup ça crée je pense qu'il y a un effet quoi il y a des choses qui se produisent dans cette formalisation et qu'on peut y réfléchir aussi.
Tu peux pas mettre en scène tu peux pas présenter un échec qui est resté un échec complètement. C'est-à-dire que...
Bah si, mais tu mets en scène l'échec. Il y a.
Oui, mais il y a une vertu heuristique toujours à cet échec, c'est-à-dire qu'il t'aboutit pas sur ça a pas marché et point.
Non, mais c'est vrai, je veux dire. Je dis que par exemple Olivier Millot, il parle de son échec pédagogique là, enseigner l'anglais. Oui. En fait, il y a toute une narration. C'est ça que je veux dire. Il y a une narration et une mise en scène de soi autour de ça. Et que ça produit des effets, moi je sais pas lesquels, mais je suis sûre que ça produit des effets sur la manière dont on voit la science, sur la manière dont on les gens qui les jeunes et les moins jeunes qui vont lire ces textes construisent l'idée de ce qu'est une bonne démarche méthodologique. Voilà, je pense qu'on est en train de construire des choses là en formalisant pas que la revue Carnet de Terrain, mais je pense que c'est un problème sûrement que les sociologues, anthropologues. On travaillait depuis longtemps, hein, mais que d'ailleurs, moi j'aimerais bien lire des choses là-dessus. C'est juste voilà, parce qu'on parle de la question de le carnet de terrain comme format d'écriture, quoi. Échanger sur les méthodologies, évidemment que c'est hyper précieux, mais avant je pense que ça se faisait beaucoup dans des séminaires fermés, et maintenant on l'expose, voilà. Et du coup,
qu'est-ce que ça passe ?
On écrit un truc, on formalise une pratique. On la met en scène.
Ça lui donne une valeur, en fait.
Et ouais, ça lui donne une valeur. Et ça produit plein d'effets, je pense. Et on pourrait étudier ça, quoi. Ce sera intéressant.
Je pense qu'il y a l'idée que c'est aussi quelque chose qui peut s'apprendre. Voilà, qui est pas. Enfin, tu vois, c'est un peu dans la lignée alors, de manuels qui existent. Hein, Beau et Weber, ce qu'ils disent, c'est qu'en gros, la méthodologie, c'est pas un truc inné, ça s'apprend. Et du coup, ça, c'est un effet, effectivement, qu'il y ait des écrits là-dessus. ça le transforme en quelque chose qui est pas un mystère, mais qui est bien quelque chose qui se produit.
Ouais, mais ça recrée des normes. Enfin, je pense que ça, oui, ça recrée un ensemble de normes, voilà, et que peut-être qu'on devrait être réflexif sur la réflexivité, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Faut que rien faire. Quoi.
Mais voilà, non, mais c'est compliqué.
Non, mais c'est vrai. Mais
c'est, il faut juste réfléchir à ça, c'est tout. C'est
de le questionner.
Ça veut pas dire, voilà, faut plus le faire, mais si on réfléchit à qu'est-ce que la revue a produit. Vraiment dans la discipline, en termes de méthode,
en tout cas, la mise en visibilité de la méthode, ça c'est certain.
Moi je pense qu'elle a produit des effets, franchement, là, la revue Carnet de Terrain.
Oui, fort, parce qu'elle est en ligne, c'est une rubrique donc, avec beaucoup de numéros, beaucoup d'articles, et donc il y a un volume important, quoi, de quelque chose qui est assez inédit en fait.
On a pas mal de messages comme ça, enfin, régulièrement on reçoit de collègues, quoi, d'enseignants, qui nous remercie d'avoir fait un support de cours, quoi.
Ouais.
Non, mais de nourrir. Et c'est vrai qu'un étudiant de master, quand tu n'arrives pas bien à lui expliquer, très vite tu dis, va voir.
Ouais, voir ça.
Ouais. Tu veux faire des cartes mentales? Ouais, mais bon, méfie-toi, regarde.
Méfie-toi.
Par exemple. Et tu ne sais pas très bien comment le dire, toi.
Sans être dans comme c'est une mise en scène, c'est quand même travailler. Ouais. C'est-à-dire que du coup, ça c'est...
Ou bien tu les fais pratiquer, quoi. Mais sinon, entre les deux, c'est difficile, je trouve. Ok. Peut-être on peut passer au dernier point.
Ouais, je pense effectivement. Ouais.
Et puis on ne va pas vous embêter trop longtemps. Ouais, une dernière question qui est justement sur ce que ça, les effets produits par la revue, là, mais qui concerne une autre innovation, un autre changement qui s'est produit au cours de l'histoire des carnets. C'est le passage en fait sur revue.org. En fait, d'être passé sur d'un site artisanal avec ses bugs, ses défauts, et puis un portail en open access. Est-ce que vous pensez que ce changement de support en fait a eu des effets du point de vue du lectorat, du point de vue de la façon dont est perçue la revue, dont elle est représentée?
Un avis sur la question, je sais pas, je me rends pas compte du tout. À part que bon, bah là, c'est un peu le bazar, mais c'est provisoire, quoi.
Le fait qu'il y ait les deux sites, c'est ça, tu veux dire ?
Bah non, comme il n'y a pas tous les numéros en ligne encore sur revue.org, là tout à l'heure, j'ai essayé d'y aller, et puis qu'est-ce que ça m'a fait ? Ça m'a affiché tout en anglais, et puis. Mais bon. Voilà, là, c'est revenu en français. Voilà. Comment ?
J'ai saboté.
Non, ça m'a fait. En fait, ce qui m'a fait marrer, tu vois, quand t'ouvres, parce que moi je suis arrivée, je sais pas pourquoi, ça s'est ouvert sur la version anglaise en fait de la page. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être mon ordinateur. Dans revue.org, là. Ah. Open Edition. Là, ah. Voilà. Donc ça, le premier truc que tu dis, c'est carnet de géographe is a peer-reviewed journal. Et ça m'a fait rire, quoi. Je me suis dit, c'est that is committed to publishing cutting edge, innovative, emergent researches et tout. Et ça faisait vachement pro et tout.
Cutting edge,
c'est eux qui ont écrit ça.
Ouais,
ils ont dû faire.
Alors en fait, en français, ça dit la revue Carnet de Géographe cherche à rendre visible des problématiques émergentes ou à la marge de la discipline géographique.
Quelqu'un de revue.org qui avait fait la traduction, il avait envoyé les résumés. C'est qu'on a écrit le dossier.
Et parce que ce qu'ils disent, là, c'est pas la même chose que.
Et en anglais,
français,
c'est un cran au-dessus, quoi. Ah bah, on me dit tout de suite, c'est peer reviewed, parce que sinon, c'est pas sérieux, quoi.
Bah, c'est. Ouais, c'est un
ce qui est vrai, hein. C'est, ouais. Mais c'est pas ce qui est dans la version française, c'est pas traduit, mot à mot.
Tu vois, c'est. Elle publie. Alors que là, en français, on essaye de.
Ouais, c'est ça. On est publishing cutting edge, et ça, c'est des mots forts, quoi. Et c'est peer reviewed, et c'est cutting edge, c'est innovative, c'est emergent researches. Voilà, et je me suis dit, c'est. Voilà, ça fait partie des trucs actuels. Mais après, moi, franchement, sur lecteur.
Bah, du coup, c'est
la diffusion, je pense. Même, je pense, quand une recherche Google, tu vois, si tu tapes sur un mot-clé, parce que c'est dans revue.org, je pense que t'es plus haut dans la recherche, quoi.
Ouais,
donc ça augmente la visibilité, je pense. Hein. Mais ça, c'est des choses qui sont sans doute mesurables.
Après, je pense pas que ça a trop changé. Le visuel est un peu pareil, quoi. Donc...
C'est une question. Parce qu'il y avait des réticences. Hein, tout le monde a pas
joué. Oui, mais moi je me souviens très bien. Et je me souviens très bien que moi, très vite dans les premières réunions, je me demandais, mais je vais parler de ça, de s'inscrire dans revue.org, etc. Et je me souviens de réticences et je me souviens plus quelles étaient les.
Ouais, moi aussi.
Je me souviens que c'est la question du formatage. Est-ce
oui, c'était ça. C'était ça, formatage. En effet, t'as raison.
Que t'as des normes à respecter.
Ouais, finalement, c'est pas vraiment gratuit parce qu'il faut être sur le portail. Mais en fait, si, c'est complètement gratuit. Et aussi, cette méconnaissance du degré de gratuité.
Ouais, ce qui se passe, parce que. Donc, bon, j'ai déjà dit, on le fait.
On peut avoir un truc 100%.
On va le faire aussi, on fait le dossier. En fait, il y a toute une discussion actuellement sur le formatage de Open Edition. Et ce qui, à l'époque, je pense, quand vous l'avez fait, était très libre encore. Maintenant, moi, j'ai discuté hier avec les gens de la MSH de Nanterre. Là, ils m'ont expliqué, c'est fini, quoi. En fait, vraiment, toutes les revues vont être exactement pareilles.
Mmh. Sur, au niveau de la charte graphique.
Ouais, au niveau des contraintes de la charte graphique et pour faciliter, justement, voilà. Donc, bah, en fait, non, elles vont toutes être reformatées. Hein. Mmh. Bah, ou alors, vous étiez déjà... enfin, peut-être qu'un géographe permettait déjà d'entrer dans les contraintes... ce qui n'est pas possible avec Justice Spatiale, avec le regard, tu sais, la traduction oui. regard et tout. Donc peut-être là, ça n'a pas posé de problème.
Mmh. On a eu une discussion hein, sur les... Enfin, leur affilé nos éléments graphiques. Ils ont des... En fait, ils ont un graphiste hein, qui te crée, du coup, ta page sur Vogue.org en fonction des, ben, des couleurs, des typos que tu donnes.
Enfin, et bien ça, je ne suis pas sûre que ça va rester, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tout le monde leur demande maintenant d'accéder à cette ressource parce que, voilà, c'est eux, ils veulent grossir, évidemment. Ils veulent être un énorme portail de... Et donc, ils ont complètement rigidifié, apparemment, depuis un an, leur charte graphique et les modalités techniques.
Mm-hmm. Il y a ça. Il y a... Et puis, je me rappelle maintenant d'un deuxième argument défensif, c'était qu'on perd le contrôle. On donne.
On délègue.
Ouais. Oui. Je trouve ça très bien.
Oui, ça
plus j'ai, parce que je pense que j'avais aussi des réticences.
Oui, mais en pratiquant, souviens,
et, bien, plus, et plus j'y pense, et plus je trouve ça bien. Quoi. Ouais. En fait, ça dépersonnalise. Ouais.
Oui, et puis ça assure une pérennité. C'est pas un serveur comme ça, on sait pas où débrancher.
Ah, ouais, ça, c'est clair. Mais du coup, la mise en ligne, comment ça se passe? Qui c'est qui l'a fait concrètement? T'as accès sur Open Edition.
T'as un code, un identifiant.
Et d'ailleurs, on n'a pas dit tout à l'heure, mais il faudrait que vous inscriviez pour les formations.
Ah oui.
Parce qu'elles ont lieu tous les mois, tous les deux mois. Sur une année, il faut un calendrier, il faut regarder maintenant pour s'inscrire à la session.
Écoute, j'ai une réunion bien sûr avec Fabrice.
Ouais, tu parles de Kira.
Il faut que je leur dise.
Parce que sans la formation, c'est difficile. Après, c'est pas très compliqué. C'est les formations sont gratos. Moi, ils sont très sympas, les formateurs. Enfin, en tout cas, je connais quelques personnes qui l'ont fait également. Enfin, très, ils adaptent aussi à tes besoins, etc. Tu peux tout de suite travailler sur ton...
Ben moi, en fait, dans ma reconversion professionnelle, j'avais... parce que j'en ai parlé avec ma tante qui travaille dans... au presse universitaire de Caen et qui du coup travaille aussi sur ce même plateforme, enfin m'a dit mais tu devrais vraiment te former à ça, il y aurait du boulot pour
l'édition électronique,
pour l'édition électronique, pour des revues, donc c'est partie des trucs que j'ai envie de venir.
Ils sont hyper pro. Ouais. Et en fait, tu découvres voilà, le travail qu'est. En fait, et c'est-à-dire que quand tu veux créer toi-même ton espace, t'es pas éditeur. Quoi.
Oui. Hein,
et on a fait plein de trucs qui sont pas du tout pro. Quoi.
Ouais. Et
pas seulement dans la façon de le faire, mais le résultat aussi, quoi, ça va pas. Pour des questions d'archivage, pour des questions d'indexation, pour des questions de ponctuation, plein de trucs. Quoi.
C'est
un métier. Voilà. Et je trouve ça bien de le respecter. Ouais. En fait, et par contre, de leur livrer des documents qui puissent être ensuite. Donc après, on fait encore des bourdes parce qu'il faut relire. En fait, là, c'est le rôle de moi. Enfin, on a un peu demandé au coordinateur de faire ça, que ce soit impeccable au niveau syntaxe, etc. Ponctuation. Et ensuite, c'est du stylage sur Word. Et l'interface est tellement simple. Enfin, quand tu as une bonne connexion Internet, c'est très vite chargé, tu peux très vite rectifier. Et ensuite, il y a plein de fonctions. Ils génèrent le PDF, ils peuvent ranger en fonction des... Donc, ils nous ont créé, par exemple, comme on avait les carnets de terrain, carnets de recherche. Etc. Enfin, les 5 carnets. Toutes les revues ne fonctionnent pas comme ça, en fait. Donc, si on pouvait structurer notre site en fonction des carnets, mais du coup, on était en flux continu. On perdait la logique du numéro. En fait, d'avoir les deux logiques, du numéro et de la rubrique, c'est un peu contradictoire dans la construction du site. Et du coup, ils nous ont créé... En fait, on a un onglet rubrique.
Ah oui,
et où dedans, on peut retrouver du coup tous les carnets de terrain, tous les carnets de recherche. C'est comme un mot-clé. En fait. Donc tu rentres quelques métadonnées en fait, au début. Et ensuite, tu as cette possibilité. Alors par exemple, carnet de recherche au singulier ou au pluriel, on n'a pas toujours écrit.
Ah oui.
Donc ça crée deux.
C'est des
bricoles,
mais en fait.
C'est pas. Donc ça, il faut juste qu'au départ, on te donne bien les consignes.
C'est important avant.
C'est très important pour, encore une fois, la pérennité, si tu veux inscrire dans la durée, parce que c'est pas toi qui le feras, c'est quelqu'un d'autre. Et enfin, faut espérer, quoi. Dans 20 ans, quoi. Ou pas, ça s'arrêtera. Mais au moins, d'essayer de s'inscrire chaud. Et parce que les textes qui ont été publiés, ils seront là. Donc je trouve, par rapport aux auteurs, etc. Et. Enfin, je me suis dit vraiment, on avait beaucoup dit, j'ai vraiment une trace, un souvenir de cette longue discussion. Et je me dis pourquoi on a autant hésité, quoi. Parce
qu'en fait, je pense qu'à l'époque, on était un petit peu aussi dans un truc où les deux processus allaient de pair, en fait. Le référençage des revues et c'est la mise en ligne sur ces plateformes.
Ouais, et la URS,
et tout arrive en même temps. Et il y avait cette réticence, je pense, à se laisser embarquer, quoi, dans ces mouvements d'uniformisation qui devaient mener à l'évaluation, à la mise en ligne. C'est pas faux non plus. Enfin,
oui, parce que du coup, ça permet aussi, ça met en visibilité. Oui, d'ailleurs, c'était la dernière petite question qu'on
c'est
avait
la dernière
sur.
Question. Oui, pardon, il y avait celle-là.
Oui, c'est effectivement, d'ailleurs, tu le dirais mieux, puisque c'était votre projet politique, quoi, que la revue avait refusé d'entrer dans le classement de l'ARS quoi, en 2010. Et la question, c'est de savoir est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui, ce positionnement, quoi.
Par rapport aux auteurs, en fait, et par rapport au projet éditorial.
Bah alors moi je vais vous dire, je sais même pas où on en est au niveau des classements de revues.
Et ben ça va repartir.
Parce que un coup c'est on classe, un coup c'est on classe pas, un coup on met des lettres, un coup on n'en met pas. Donc là ils vont reclasser, c'est ça, toutes les revues? Parce que là il y a des gens qui m'envoient des trucs en disant ah, JSSJ c'est classé je sais pas quoi, moi je savais même pas.
Il y a une démarche à faire de la part de la revue pour être classée?
Bah je crois pas, non.
Comment vous aviez fait ce refus d'être classé? Comment ça s'est
passé? Je crois pas qu'on pouvait refuser d'être classé, en fait, on le disait comme ça.
En fait, en 2008, l'ARS a fait un classement fameux avec les A, B, C. Et ensuite, ils avaient annoncé qu'ils le referaient tous les 4 ans, en même temps que les quadriennaux, là, je sais pas quoi. Et finalement, il n'y en a pas eu de nouveau. Donc nous, on n'est pas classés. De fait, on n'a pas eu à refuser, mais on affichait sur la ligne, on écrit, quoi, qu'on ne voulait pas. Donc si ça a recommencé en 2012, on ne voulait pas rentrer dans le classement. Donc en fait, tu le signales à l'ARS.
Moi, je m'en rappelle très bien, en 2008-2009, ce qui se passait, c'est les gens, quand cette liste est parue, ça a créé évidemment des effets d'alarme.
Des mois
généralisés, parce qu'il y avait des revues qui étaient dedans et d'autres qui ne l'étaient pas. Mmh. Et les revues n'avaient pas été consultées, évidemment. Et donc, les gens ont très mal vécu cette période où c'est l'ARS.
À l'époque, c'était l'HCERS,
c'est ça? C'est l'ARS. Ils avaient choisi, en fait. Et ça fait toute une histoire. Et après, c'est ça. Du coup, ils ont laissé tomber parce que c'était trop compliqué.
Ce qui paraît, là, ils vont reprendre.
Et donc, là, moi, en effet, je reçois des trucs. Ah, t'as vu la revue machin?
Il faut te manifester, en fait. En effet, c'est comme c'est ce qui évalue. Il faut dire, voilà, ma revue.
Ne sera pas classée.
Non, il faut leur... si tu vas te classer, du coup, tu,
ah oui, d'accord.
Tu
donc
fais la démarche, c'est-à-dire que tu existes, et du coup, ils passent avec leurs critères, en fait. Il y a une grille, et à ce moment-là, ils t'attribuent un classement que tu peux mettre sur ton site, quoi, ou enfin, tu peux signaler quand tu veux lancer des appels à communication ou autre. Et voilà, enfin, moi, je pense que c'était vraiment un positionnement très fort, initial. Et bah,
c'était quoi?
Et après, la question c'est est-ce qu'aujourd'hui on peut encore défendre ça? Est-ce qu'on peut continuer, en fait, à dire? Sachant que, donc paradoxalement, le CNU a reconnu que c'était une revue classée. En 10 ans, certains ont argumenté.
C'est-à-dire
que aujourd'hui, tu dois avoir, pour être qualifié, il faut une thèse et 2 articles.
Oui.
Et donc, 2 articles dans des revues.
Est-ce qu'un article dans le carnet compte?
Mais qu'est-ce qu'il dit, CNU, exactement? Il dit 2 articles dans des revues, comme si ou comme ça.
Comité de lecture.
Il est juste à comité de lecture, je pense.
Dans 2 revues de géographie.
Alors, il y a le truc disciplinaire, ça c'est sûr.
Mais il faut qu'elle soit reconnue comme une revue qui est reconnue.
Mais par qui,
ouais. Par le CNU.
Oui, c'est ça. Donc, le CNU ne se réfère pas au classement de la HCERS.
Et ben, je pense que c'était l'ambassade. Si. Je crois que c'est leur.
Je vais regarder.
En fait, là, je pense que c'est comme c'est un peu dans les limbes. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais je pense que ce qui va se passer, c'est que de fait. Quand il y aura un classement actualisé, c'est ça qui va compter, quoi. Enfin, je pense. Imagine, les annales ne sont pas classées, les annales ne sont pas classées. Là, le CNU dirait peut-être, bon... Mais sinon, ils vont suivre le classement, quoi. C'est un classement actualisé.
Moi, je pense que c'est des rapports de force au sein du CNU. Je pense qu'il y a des gens qui s'appuient sur le classement HCERS, d'autres qui ne le reconnaissent pas. Et qu'à chaque dossier, ça discute. Oui, mais il a publié dans les carnets de Géo, c'est une bonne revue. Oui, c'est une bonne revue. Et reconnu, c'est une reconnaissance.
Mais c'était pas compté. Même il y a des docteurs qui nous ont demandé, en fait, s'ils publiaient dans les carnets, si ce serait reconnu au moment de la qualification. Donc nous, on n'a aucun agrément de rien. Donc en fait, on leur disait non. Et en fait, apparemment, donc c'est ce qui, dans les pratiques, en tout cas, c'était pas reconnu comme valant un point. Et cette année, plusieurs dossiers sont passés et où il y avait une publication dans les carnets et où ça a été pris en compte. Ça a permis de qualifier.
Donc, c'est en pratique, en fait, c'est une pratique.
C'est une dame à Claire qui témoignait ça, etc. Enfin, oui, c'est une pratique. Et du coup, oui, mais ce qui pose la question de, du coup, ouais. finalement, est-ce que tu veux pas cette reconnaissance
alors ouais, parce que c'est, enfin, difficile, c'est ouais, compliqué, ouais. c'est de se dire que, effectivement, là, la revue a été créée à un moment donné où vous refusiez. Et ce qui était d'autant plus courageux qu'à l'époque, vous étiez aussi, justement, pas en début de votre carrière, etc. Là, maintenant que la revue, justement, est plus instituée et avec des. Enfin, principalement. Porté par des gens qui sont en poste, etc. La question se pose peut-être différemment dans la mesure où finalement vous avez ouvert un espace de publication ouvert aux jeunes chercheurs qui eux ont besoin, ont besoin de
beaucoup
cette
plus que nous.
Voilà, c'est ça.
Donc c'est, oui, mais c'est quand même. Enfin, excusez-moi, mais c'est paradoxal parce qu'on dit c'est déjà reconnu de fait. En pratique, le CNU reconnaît la valeur de ces articles.
Donc, du coup, quel est le sens de dire on milite pour ne pas être classé, puisque
bah, finalement, c'est l'inverse. Pourquoi être classé? Pourquoi exiger une reconnaissance qui est déjà là, de fait? Et politiquement, aller à l'encontre de ce que c'était le projet initial de la revue.
Donc, est-ce que c'est toujours le projet? C'est ça la question. Parce que finalement, est-ce que la pratique, elle doit pas être reconnue? La pratique, elle doit pas être institutionnalisée? Parce qu'il y a un moment où c'est un peu ambigu. Si tu dis que tu refuses et en même temps tu cherches la reconnaissance de la part.
Si tu le cherches pas, tu l'as obtenu de fait. Tu l'as pas cherché en fait.
C'est la question en fait. Du coup, est-ce qu'il y a une contradiction là-dedans ou pas? Ou c'est possible de regarder? Je sais pas.
Bah, moi je trouve que c'est une belle réussite en fait.
Tu vois, tu forces un peu la main à l'institution, c'est-à-dire que.
L'institution reconnaît la valeur de ton travail et. En passant pas par les canaux que.
Mais c'est un rapport de force, donc ça peut être changeant, tu peux pas garantir.
Et puis c'est lié au fait qu'il n'y a pas de processus de réévaluation depuis, quoi.
Oui, c'est ça, là je pense qu'il va y avoir une nouvelle vague.
Il y a une nouvelle vague,
là, ça va se poser.
Et que les carnets, imaginons, ne sont pas classés. Alors là, qu'est-ce que ça va faire pour les doctorants? Enfin, moi je serais doctorant, c'est une information essentielle. Si c'est devenu deux publis minimales.
Dans la liste. Ce qui se passe dans beaucoup de disciplines, hein. Pour l'instant, on est assez épargné.
Enfin, voilà, je suis en train d'essayer de trouver les consignes du CNU en section 23 pour la qualification. Déjà, elles ne sont pas trop accessibles, donc je ne les trouve pas, quoi.
Mais c'était le grand scandale de l'année dernière, c'est que ça n'était pas écrit. C'est le motif de refus de beaucoup de dossiers.
Ah oui.
Oui. Donc, et tout laisse à penser.
Donc, ça veut dire qu'en fait, ce ne sera jamais une règle qui pourra garantir
Moi, je pense que ça va
une reconnaissance. Sauf si ça se formalise, en effet, sous cette forme-là. Mais...
Moi, j'aurais tendance à penser ça aussi, ouais. Ça va devenir...
Là, en tout cas, tu vois, sur le site Galaxy, t'accèdes à la page qualification, il n'y a rien qui te dit la section 23 exige ça et ça, et elle reconnaît les revues, ou elle s'appuie sur tel listing pour sur tel classement. Donc moi, je pense qu'ils ne sont pas fous, les gens du CNU. Enfin, ils ne vont pas s'imposer des carcans de cette nature. Je crois que c'est des rapports de force qui se jouent au CNU.
Bon, cela dit, la question pourra se poser quand il y aura un prochain tour de classement. Il faudra mobiliser le comité de réaction pour réfléchir à
la. Après, pour moi, ça, c'est de la tactique politique. Enfin, il n'y a pas de réponse de principe sur ça. Enfin,
Non, mais c'est plutôt justement ça. Vous, votre point de vue, enfin, qu'est-ce que vous aimeriez défendre, quoi, si la question se repose, là.
Ça dépend des comment elle se repose, en fait.
Ouais.
Ça dépend des modalités. Et...
Mais c'est vrai que c'est... Il y a plusieurs niveaux en fait. C'est qu'est-ce que tu défends, si c'est l'intérêt des auteurs, si c'est.
Il y a l'intérêt des jeunes auteurs, mais enfin des jeunes et des moins jeunes. Mais il y a aussi la question de une fois que t'as mis le doigt dans l'engrenage infernal de cette quête du classement, et que tout d'un coup l'année suivante on te dit ah non mais t'as revu quand même là t'as fait des choses bon il faudrait quand même changer un peu la ligne éditoriale parce que ça correspond plus bien et du coup tu veux pas être déclassé donc tu vas.
Exactement.
Pour moi, enfin, c'est vraiment quelque chose qu'il faut refuser, mais après j'entends le truc.
À voir.
Oui, ça je pense que ça va juger en espèce.
Espérons qu'il ne s'active pas trop vite. D'autres chantiers, on est pas mal. Vous avez des trucs.